Bonjour. Aujourd'hui, dans Parlons Terroir, nous irons sur la ferme de Bernardin, orientée en agriculture biologique depuis plus de 20 ans, à Foyer, près de Tonnes. Ici, la famille Roumat, Jean-Pierre et Martine, sont producteurs de fruits, dont des pommes, des kiwis, mais aussi des pommes de terre, et surtout des graines de tournesol, colza, des chanvres et de la cameline. Du jus de pomme à la purée de pomme, en passant par les huiles issues de leur propre presse, l'huilerie de l'Occitanie, ils offrent une diversité de produits à usage alimentaire et cosmétique bio. Ici, tout est fait pour le respect d'une alimentation saine, la préservation de la santé avec les fameux oméga 3 antioxydants très représentés dans l'huile de chanvre et de cameline. La passion du chanvre a été transmise à Nicolas, ingénieur de formation issu de la troisième génération, qui actuellement diversifie leurs débouchés avec des produits à base de CBD, avec notamment le chanvre de mon père. Côté jardin, ce sera le kiwi qui, comme beaucoup de plantes, ont souffert de cette gelée printanière. Aussi, bonne écoute. Alors, je suis au lieu dit Bernardin à Foyer, près de Tonnes. Je suis la famille Roumat. Alors, je suis à côté de Roumat. Bonjour.
Bonjour.
On est sur une exploitation maraîchère, fruitière, je crois, c'est ça?
Voilà, c'est une exploitation qui est fruitière, orientée kiwi, kiwi-pommier, et pommes de terre, et après oléagineuses, c'est-à-dire toutes des plantes qui peuvent permettre de faire des huiles. Alors on a le chanvre, la cameline, le colza, le tournesol, et toutes ces graines sont récoltées et transformées sur site.
Alors, il y a longtemps que vous êtes installé ici à Foyer. Une longue histoire.
Une longue histoire qui a commencé dans les années 83-84. Je suis revenu sur la propriété qui était tenue par mon grand-père, qui était pépiniériste. Depuis deux générations, c'était pépiniériste. Et j'ai repris, mais plus en pépinière, mais en culture maraîchère.
Alors, culture maraîchère, au départ, on faisait quoi ?
Je faisais de la fraise, du poivron, de la courgette, et on livrait ça à la SICA à Foyer.
D'accord, SICA à Foyer avec M. Delsol, si M. Sommon, qui était le président à ce moment-là, qui était le maire. Alors, ça, c'était dans les années 80, c'est ça ?
Tout ça, c'était dans les années 80. J'avais planté immédiatement du kiwi. J'étais un petit peu dans les premiers, en Lot-et-Garonne, à faire le kiwi. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire cette culture. Et tout ça, est arrivé jusque dans les années 2000. Et en 99, réellement, j'ai pris conscience de la dangerosité de certains produits qu'on utilisait et j'ai décidé de passer en agriculture biologique. Donc actuellement, là j'avais des pommiers, des kiwis et je faisais du maïs. Et la première chose c'était de dire mais comment va-t-on résoudre le problème des intrants en gardant du maïs ? Et c'est là que j'ai commencé à chercher un petit peu dans l'historique de ce qui se produisait dans la région. Et j'ai trouvé qu'on faisait du chanvre dans les années 1920-1930. Et ça m'a un petit peu intéressé et je me suis passionné pour cette plante et on a commencé à faire du chanvre depuis plus de 20 ans maintenant.
Alors le chanvre, c'est quoi au juste ?
Alors c'est une plante annuelle qui pousse très très vite, qui a besoin de peu d'intrants, peu d'azote pour pousser, peu d'eau, mais je dirais pas sans eau, et qui pousse à une vitesse extraordinaire, qui arrive à faire 3 mètres en 120 jours, et qui n'a pas besoin donc de désherbant parce qu'elle arrive à pousser plus vite que les mauvaises herbes. Et donc c'était la plante idéale pour faire cette conversion en agriculture biologique, puisqu'elle me permet de me passer de désherbants, de fongicides et d'insecticides.
Alors ça veut dire que c'est une graminée, c'est quoi au départ ? Ça se sème ?
C'est une plante qui se sème au printemps, au mois d'avril-mai, et qui va pousser rapidement et qui va se récolter au mois de septembre.
D'accord, donc le cycle est en cours.
Oui, c'est un cycle de 120 jours. 120 jours avec une très grande vitalité. Et cette plante est intéressante pour plusieurs aspects. La partie tige, qui permet de faire de l'isolation et de la construction. Et ensuite, la partie graine, c'est celle qui m'intéresse le plus, puisqu'elle me permet de la transformer en huile et en protéines.
Alors ça veut dire qu'ici, autrefois, on faisait du chanvre, c'est les sols qui étaient typiques, très fertiles, c'était le tabac, le chanvre, c'est ça?
Voilà, oui, dans la région, il y avait deux, sur Tonnes, il y avait deux grosses industries. Il y avait l'industrie du tabac, avec la manufacture royale, et ensuite il y avait aussi une quarantaine de corderies. Et Tonin était un peu spécialisé sur la fabrication des cordes. Donc il y avait 40 mètres cordiers qui s'approvisionnaient dans les campagnes avoisinantes pour avoir la fibre de chanvre pour pouvoir réaliser ces cordes. Et c'est une activité qui a perduré jusque dans les années 20. Il y a eu l'arrivée de la marine à vapeur qui a supplanté tous les besoins en cordage, et donc cette activité s'est arrêtée à cette époque-là.
Donc ici, il y avait une corderie, ils fabriquaient des cordes, parce qu'à Rochefort, il y a la corderie royale, et donc la particularité, c'était, à partir du chanvre, c'était de faire des cordes. On ne faisait pas des vêtements aussi?
Alors, sur Tonin, il y avait donc 40 corderies, et j'avais un arrière-grand-père qui était maître cordier aussi. Sur ton nez. C'est pour ça, c'est un ensemble de faits qui a fait que j'ai choisi cette culture, hein, qui m'a particulièrement intéressé.
Ce chanvre, on fait de l'huile, c'est ça?
Voilà, avec le chanvre, au départ on faisait du chanvre et on expédiait les graines pour l'oisellerie. On expédiait ça en Hollande, où ils sont assez avancés sur les mélanges de graines pour les oiseaux. Et j'ai trouvé que c'était quand même fort, fort dommage de ne pas utiliser ces graines ici et de les transformer. C'est pour ça que dans les années 2006, on a installé une unité de transformation sur site, à savoir une huilerie avec une machine de pressage adaptée au chanvre. On a fait faire des pièces spécialement pour pouvoir faire une extraction d'huile à basse température.
Donc à partir de là, aborder la problématique de l'huile, donc vous transformez le chanvre, mais pas que.
Mais pas que, justement. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les huiles qui ont une bonne valeur énergétique et alimentaire. Et dans le chanvre, on trouve les fameux oméga-3 dont tout le monde parle. Donc ces oméga-3, on le trouve dans l'huile de colza, avec 7%. On le trouve dans l'huile de chanvre, avec 18-20% d'oméga-3. On le trouve aussi dans une autre graine, la cameline. Et donc ça m'intéressait, parce que là, on le trouve à une valeur de 30%.
Donc à côté du tournesol, qui lui, au contraire, a beaucoup d'oméga-6, et surtout pas. Donc c'est pas un anti-inflammatoire, alors que les oméga-3 sont des anti-inflammatoires. Alors la cameline, c'est quoi au juste comme culture?
Alors, la cameline, c'est une petite plante qui va faire un petit mètre de 80 cm, un mètre de hauteur, et c'est pratiquement l'ancêtre du colza. C'est une plante qui a été abandonnée parce qu'elle a des rendements très faibles, malgré un pourcentage d'oméga-3 très important. Et ce qui m'a intéressé dans cette culture, c'est la qualité de la graine qu'on pouvait obtenir.
Alors, comment vous récoltez aussi bien le chanvre comme la cameline?
Alors, ce sont des oléagineuses, une moissonneuse batteuse modifié permet de récolter le chanvre. La cameline, une moissonneuse classique, la récolte tout à fait bien. Il n'y a pas de souci de récolte. Il n'y a que pour le chanvre, il faut faire vraiment très attention, et tous les entrepreneurs ne veulent pas le faire.
Parce que le problème du chanvre, c'est que c'est un peu comme le lin, c'est des plantes ligneuses, donc c'est difficile à récolter.
Ben, le chanvre, justement, c'est la partie fibre qui est extrêmement solide et qui a la particularité de s'entourer à tout ce qui tourne. Et dans une moissonneuse, on a vite fait d'avoir des problèmes mécaniques avec cette fibre extrêmement résistante.
Et là, il faut l'arracher quand ça marche. Parce que moi, j'ai vu déjà le lin, on le fait rouillir, est-ce que ça marche pareil?
Alors, le chanvre, on va récolter la graine, donc récolter la tête qui porte les graines. Et ensuite, on va faucher la plante, la laisser rouir comme le lin. Donc on la laisse rouir au sol et après elle est endainée et roundballée ou bitballée si, suivant l'utilisation.
D'accord, donc c'est tout à fait les caractéristiques de ces plantes qu'il faut d'abord faucher et faire rouillir. La partie de c'est quoi rouillir?
Rouir, c'est il y a les fibres qui sont extérieures à la tige et qui sont reliées par des pectines. Et ces pectines gardent une force très importante de cohésion entre les fibres. Et c'est justement l'action de l'eau qui va les détruire pour permettre un défibrage ultérieur plus facile.
Parce qu'on parlait aussi de les mettre dans l'eau, c'est ça?
Avant, voilà, la technique qui était utilisée avant, c'était de couper le chanvre, faire des gerbes. Ces gerbes étaient mises dans des mares, et au bout d'un certain temps, la pectine avait été éliminée par l'eau, et là, le chanvre était reséché immédiatement pour pouvoir être conservé en vue de son défibrage pour être transformé en corde.
Alors là, c'est plus le cas.
Actuellement, c'est plus le cas parce que dans le temps, cette technique avait le gros inconvénient, c'était de polluer les rivières et il y a eu des maladies parce que l'eau des ruisseaux était complètement polluée par le chanvre qui macérait dedans.
Donc là, on fait tout simplement en fauche, ça reste au sol et là, on laisse rouillir pendant un certain temps. Là.
Voilà, on laisse rouillir pendant un certain temps qui est variable en fonction des pluies d'automne. Et après, il faut le roundballer, mais quand il est bien sec, sinon il va se remettre à fermenter.
Alors l'avantage, c'est qu'on a des automnes lumineux, donc de ce côté-là, on n'a pas trop de problèmes pour la récolte.
Non, pour les récoltes, on avait mis en place la coopérative Aquitaine-Chanvre et on récoltait le chanvre pour l'utilisation de la paille. On arrivait à faire une centaine d'hectares sans grande difficulté.
Parce qu'il y a toujours, il y avait une coopérative, c'est ça, coopérative Chanvre, sur Tournesse, la région ou quoi?
Oui, on avait créé la coopérative Aquitaine-Chanvre, qui existe toujours, mais nous n'avons plus l'unité de défibrage actuellement qui a fermé. Elle était basée à Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, et actuellement elle est fermée, elle a été vendue, et donc nous n'avons plus l'utilisation de la paille actuellement. Et on travaille sur des utilisations textiles pour revenir sur du chanvre textile plutôt que du chanvre pour faire des cordes.
Non, pour faire des vêtements, c'est ça?
Voilà, pour faire les vêtements, ce qui serait extrêmement intéressant pour remplacer au moins en partie la fibre de coton qui est, elle, plutôt polluante dans sa façon d'être cultivée.
Consommatrice énormément d'eau et beaucoup d'intrants, notamment produits phytosanitaires. Donc c'est la plante à bannir, je dirais. Malheureusement, elle est très utilisée. Et puis également le plastique, le nylon, etc. Donc c'est partie de ces plantes, je dirais, d'avenir.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon keno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. De mon mercurochrome, t'es moins stupide que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble en parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant, tout le temps, tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon plus un quand je chope des invites. T'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant.
Voilà, nous sommes toujours à Famille Roumat avec Jean-Pierre et Martine, la ferme de Bernardin. Alors, on va parler peut-être du kiwi. Vous avez démarré le kiwi très tôt, c'est ça ?
J'ai démarré le kiwi dès que je me suis installé. Je ne sais pas pourquoi, c'était une plante qui m'intéressait. Et donc, il y avait dans le Lot-et-Garonne, il y avait 4 ou 5 producteurs de kiwi à l'époque où j'ai démarré. Ben, on a fait ça un petit peu sans trop connaître la physiologie de la plante. Et finalement, ben, c'est avéré que c'était une plante d'avenir, puisque actuellement, c'est une des cultures phares du Lot-et-Garonne en nombre d'hectares.
Alors, je crois que c'est de mémoire, c'était Sens, qui était un gros producteur de kiwi. Ici, on travaille beaucoup sur la vitamine C, sur l'oméga 3, donc vous êtes très branché sur le côté, finalement, santé et alimentaire.
Tout à fait, c'est ce côté-là qui m'intéresse. En produisant des nourritures intéressantes, eh bien, on apporte notre petite pierre sur la santé, sachant que c'est par la nourriture le premier médicament.
On est sur les médicaments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce kiwi, vous avez déjà pas mal de recul, avec qu'une seule variété ou pas ?
Actuellement, je travaille sur Kiwi Award. J'ai un petit peu de kiwi précoce, le Mont Cap. C'est un kiwi qui est français, celui-là, obtention, puisque mon cap, c'est la contraction de cap, c'est Capou, le lycée de Capou, et mont, c'est Montauban. Donc c'est un kiwi qui a été créé en France.
Dans le Tarn-et-Garonne. On vous a parlé de bio, passage en bio, sachant que souvent on a des problèmes, on a la problématique de baisse de rendement, d'anticipation, par rapport à finalement un changement de conduite de production. Et puis derrière, il y avait des aides. Est-ce que vous étiez dans cette démarche-là ?
Oui, j'étais dans une démarche de changement de système de production qui ne me convenait plus. Et donc j'ai commencé par les grandes cultures, en disant ça va être le plus simple. Donc j'ai converti en 99 toutes mes terres en grandes cultures. Et c'est là que j'ai commencé à cultiver le chanvre, du soja, enfin d'autres cultures un petit peu alternatives, pour pas rester uniquement sur la base maïs. Ensuite, je me disais, le plus difficile, ça va être les pommiers à conduire en bio. Et finalement, c'est la deuxième culture que j'ai conduite parce que c'est celle qui demandait le plus de, qui me consommait le plus de d'intrants chimiques.
Oui, en général, il y a entre 25 et 30 traitements par an sur une pomme, hein, pour avoir une pomme comme il faut.
C'est ça, c'est ça. Donc, on est passé en bio, j'ai fait ça progressivement. Donc, au début, en commençant par me passer des désherbants, donc commencer à faucher sous les arbres plutôt que désherber, avant de faire un passage total sur les produits et conduite complète en bio. C'est vrai que les arbres ont stressé au départ parce que c'est pas la même chose, parce qu'ils sont ils étaient habitués à une certaine conduite et la conduite est relative et complètement différente. La quantité est différente dans le cas où on n'a pas de produit super efficace s'il y a une maladie déclarée. Donc on doit agir par anticipation. C'est-à-dire s'il y a ça qui peut arriver, donc il faut que je mette les conditions les plus favorables pour éviter que ça arrive. Donc on est toujours sur une protection par anticipation plutôt qu'une protection lorsque la maladie est déclarée.
Alors ça veut dire que bon, on a surtout moniliose, carpocaps, on a des tavelures, voilà, surtout chercher la tavelure. Ça veut dire que vous travaillez avec des produits type soufre ou bouillie bordelaise ou peut-être huile essentielle, etc. Donc pour renforcer la défense de la plante, c'est tout un travail à ce moment-là. On change de paradigme, là.
C'est une autre façon de lutter contre les maladies. La première des choses, pour passer en bio, j'avais des variétés qui étaient sensibles à tavelure. Et donc on a commencé par couper les arbres, surgreffer avec des variétés qui étaient soit peu sensibles, soit résistantes à la tavelure. Déjà, on élimine une quinzaine de traitements par an.
Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme variété là ?
Là, on a mis de l'opale, on a mis une pinova et une dalinette. Donc trois variétés que nous avons sélectionnés par rapport à leur qualité gustative et leur résistance à certains parasites ou maladies générales du pommier, afin de pouvoir travailler plus facilement avec les produits donc, qui ne sont pas de synthèse. Donc on a droit donc, au cuivre, au soufre, au bacillus turgensi pour les insectes, au savon noir,
tout ce qui est papillon,
voilà, pour les carpeaux, là, le petit vert de la pomme. Ouais. On utilise le savon noir, on utilise le sucre, on peut utiliser pour faire pour diminuer la pression des papillons. On va utiliser
Vous utilisez des pièges, là, des pièges à carpeaux, par exemple, tout ça, pour voir les vols, parce que ça, il faut beaucoup observer, là.
Voilà, donc l'observation, oui, il y a des pièges. Il y a des pièges à phéromones pour essayer de capturer les mâles et faire une comptabilité pour savoir où en est la pression. Il y a les avertissements agricoles avec les techniciens. Et je me suis aussi associé avec une technicienne spécialisée en agriculture biologique pour suivre les vergers ainsi que toutes les interventions à faire.
Ça, parce qu'on est quand même quelque chose qui est très pointu. Alors, les kiwis, on en parlait tout à l'heure, on a eu Dame Garonne qui a fait des siennes cet hiver, et les kiwis, ben, ils ont eu finalement un peu d'eau, là, non ?
Ben oui, on peut dire que les kiwis ont eu les pieds dans l'eau. L'eau est montée à peu près jusqu'au niveau des barres transversales, avec 1,50 m d'eau, mais bon, les terrains sont très filtrants, et dès que Dame Garonne s'est retirée, quelques jours après, les terrains avaient retrouvé leur capacité de rétention en eau normale, et donc là, il n'y a pas de dégâts par rapport à ça.
Alors, par contre, on a eu un mois de mars, je dirais, estival, et en avril, te découvre pas d'un fil, on est en train de le découvrir, puisque malheureusement on a quelques gelées et je crois que vous avez passé deux nuits plus ou moins blanches.
Oui, ce mois de mars, le démarrage a été très précoce, 8-10 jours de plus qu'une année normale. Il a été aussi intensif parce que, comme les températures étaient importantes, les bourgeons se sont bien développés. Et on a une période quand même de froid qui récurrent qui vient la nuit. Et on est à 5 à 6 nuits, je crois, 6 nuits de veille sur les kiwis, juste pour le mois de mars, ce qui est quand même très important. Et le mois d'avril n'est pas encore fini.
Et là, ça veut dire que là, la lutte anti-gel se fait par aspersion, c'est ça?
Voilà, on utilise l'aspersion d'eau sur les kiwis pour former un cocon de glace. Et ce cocon de glace, puisqu'on envoie de l'eau qui a 12 degrés, l'eau du puits, l'eau en gelant retransmet ses calories au végétal, et en transmettant ses calories au végétal, elle le protège du froid extérieur. Mais il faut absolument continuer la protection jusqu'à ce que les températures redeviennent positives. Ce qui veut dire que la dernière nuit de gel, on a lancé à minuit, parce qu'à minuit, il commençait à geler, et on a arrosé jusqu'à 10h30, le temps que la glace fonde. Donc ça fait énormément d'eau pour protéger. Mais bon, c'est le seul moyen... hormis le fait de faire de la fumée, mais c'est notre système qu'on a pas, qui n'est pas courant dans notre région, mais peut-être qu'il serait bien en complément dans certains endroits.
Et là, il faisait combien de température?
Là, le thermomètre est descendu à moins 3,3 degrés, mais bon, l'intensité est importante, mais c'est la durée. Mais de minuit jusqu'à 9h du matin, on était en température négative, donc le froid a bien le temps de rentrer dans le végétal. C'est pour ça que cette année est une année un peu particulière. Je crois que d'après les statistiques, un froid comme ça, on ne l'a pas eu depuis 1991.
Alors ça veut dire que de ce côté-là, pour l'instant, vous ne voyez pas trop de dégâts, si ce n'est l'extérieur autour, là. Parce que c'est quand vous avez déjà eu des cas un peu similaires de gel.
Oui, pour l'instant, par rapport au kiwi, 20, peut-être 30% de dégâts, on ne sait pas trop encore. C'est l'évolution qui nous dira le chiffre exact. Par contre, sur les pommiers, où je n'ai jamais eu, depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de gelée significative sur les pommiers, je suis très réservé. Je ne sais pas du tout l'impact que ça a pu avoir.
Parce qu'en général, ils fleurissent beaucoup plus tard et là, ils sont en fleurs.
Le pommier résiste à des températures de moins 2, alors que le kiwi n'y résiste pas. Là, on a eu moins 3, on ne sait pas trop le pourcentage de dégâts qu'il va y avoir encore.
Pas quand je serai sous terre que mes yeux des moisurons. Je choisis les vers à vos prières, une honnête décomposition. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme. Elle trinquera encore sur terre, à la vie, à la mort, au vin, aux femmes. Ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y cantar. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar. Je ne boirai pas vos paroles, ô infidèle des premiers temps. Et je dégueule sur votre rôle de mauvaise conscience des innocents. Pour vous le bonheur est l'ailleurs, pour moi il fut dans chaque main. Sur chaque lèvre maladroite, a mis le lieu de vos salades. Je me demande encore pourquoi on vous implore par tous les noms. C'est vous qui devriez, je crois, au diable nous demander pardon. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y cantar. El cielo no puede hacer nada, el pueblo puede soñar y gritar. soir je reste mort. Je danserai sur mes cendres, éparpillé très loin de Rome, sans qu'elle ne puisse plus descendre, sans qu'elle ne sache plus l'enfer d'un navet gâché par le pécule. Des fins de blagues ridicules versées dans vos poches de missionnaires. Le ciel n'a jamais plus grand chose, il ne m'envoie pas sur les roses. Il ne m'arrangera pas ce soir, je le détache de l'espoir. El cielo no puede hacer nada. El pueblo puede soñar y cantar. El cielo no puede hacer nada. El pueblo puede soñar y cantar.
Voilà, nous sommes toujours à Famille Roumat avec Jean-Pierre et Martine, la ferme de Bernardin. Alors au départ, la commercialisation se faisait par la cigale fouillée, mais il y a eu une évolution, je crois.
Oui, je commercialisais avec la cigale jusqu'à ce que je passe en bio. Puis après, la cigale n'était pas spécialisée dedans. Il a fallu changer nos clients. Et c'est là qu'on a commencé à travailler en direct avec des coopératives spécialisées dans le bio.
La Gapso. Alors il y a la Gapso qui se trouve sur Port-Sainte-Marie, c'est ça ?
Voilà, avec Gapso, on a commercialisé avec Gapso. Et ensuite, il y a un autre événement, c'est que ma femme qui avait un commerce a arrêté son commerce et est venue m'épauler dans mon exploitation.
Vous faisiez un commerce de quoi ?
Durant 20 ans, j'étais sur Tonnes, j'étais fleuriste. Et au bout de 20 ans, j'ai voulu changer de métier un petit peu ou voir autre chose. Mon mari ayant une activité très prenante et une commercialisation était nécessaire, j'ai décidé de l'aider à commercialiser ses produits. Donc un jour, je suis partie. Avec des produits, j'ai pris le camion, j'avais jamais conduit de camion, j'ai pris le camion, je suis partie avec des produits dans le camion, des pommes, des kiwis, et j'ai frappé à chaque porte de magasin pour savoir s'ils étaient intéressés par les produits que je vendais. Petit à petit, chacun me répondait ben oui, repassez, donc ça m'a encouragée. Et la semaine d'après, je suis repassée avec des commandes à la clé et j'étais très contente. Donc c'est ce qui nous a un peu lancé sur la commercialisation directe de producteur au magasin spécialisé. Je suis toujours à frapper aux portes et on me répond toujours présent, donc on est content du résultat.
Donc vous commercialisez en direct auprès, c'est au niveau du département, vous allez où là ?
Pour l'instant, nous faisons, c'est le département, on ne va pas très loin, on va quand même sur Bordeaux un petit peu. Là, on fait des expéditions, on va sur Agen, on va sur Marmande, ça reste quand même local. Après, nous avons des clients qui viennent ici à la ferme chercher s'approvisionner régulièrement.
Je crois que vous avez installé une boutique déjà à la ferme. C'est intéressant. Et est-ce que vous avez eu des aides par rapport à l'agglo, etc., chambre d'agriculture ?
Non, nous n'avons pas eu d'aide. Nous avons installé le magasin simplement. Et on a justement introduit dans la construction de ce magasin les murs. On a fait les murs en chanvre, qui est chambre et chaud. On a bâti un petit peu autour de toute cette stratégie de notre entreprise, de notre agriculture.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les pommes, on n'a parlé que les pommes, vous allez les livrer, mais vous les transformez aussi.
Voilà, la pomme est calibrée, mise en cagette. Les pommes qui sont déclassées, par défaut d'aspect, sont transformés en jus de pomme.
Et là, pour l'avoir goûté, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est un super jus. Il n'y a pas de sucre ajouté. On est vraiment, c'est du pur fruit là.
Ah, c'est 100% pur fruit. C'est un mélange équilibré avec nos trois variétés. de manière à avoir quelque chose
d'équilibré.
Et alors, la transformation, c'est un prestataire de service qui le fait ou c'est vous-même ?
Alors, la prestation, on le fait avec un autre agriculteur qui est équipé de matériel pour pouvoir faire une mise en bouteille avec une pasteurisation à 60 ou 80 degrés, de manière à pas trop cuire le jus de pomme, pour pas qu'il ait cet aspect, ce goût caramélisé.
Alors donc, on est 100% pur jus de pomme bio, ferme de Bernadet, donc en cœur du Lot-et-Garonne, donc qui est labellisé agriculture biologique. Alors par rapport à ça, il y a un cahier des charges en agriculture biologique et vous êtes contrôlé par qui ? Quel est l'organisme certificateur ?
Bah, j'ai pris, toujours pour rester dans l'idée du local, j'ai pris un certificateur local qui s'appelle Calis Sud, qui étaient à Grosserte et qui sont basés à Marmande. Donc depuis le début, c'est toujours le même organisme certificateur.
Alors ça veut dire que vous avez un cahier des charges. Comment ça se passe, les contrôles, la certification par rapport à la culture biologique ?
Alors deux fois par an, le contrôleur vient, il vérifie tout ce qui est côté administratif, facturation, achat de produits, achat de semences. Et moi, j'ai la partie transformation pour les huiles et pour tous les produits transformés, jus de pomme, purée de pomme. Et là, il regarde aussi la traçabilité, comment c'est fait, si le prestataire est aussi agréé par un organisme de contrôle. Et c'est deux fois par an, en général. C'est un gros travail, quand même.
Alors, ça veut dire que là, il faut que toutes les factures soient épluchées, etc. C'est une traçabilité à ce niveau-là.
Voilà, il y a une traçabilité, contrôle sur les quantités produites, contrôle sur les produits utilisés, contrôle sur le terrain. Non, c'est vraiment sérieux comme. Je pense qu'un consommateur, quand il voit le logo AB, peut avoir toute confiance dans la traçabilité et dans le travail qui est fait.
Alors, vous faites également de la purée de pommes, c'est quoi là ?
La purée de pommes, c'est faite à partir de pommes, comme le nom l'indique. C'est à partir aussi de pommes qui ont des défauts d'aspect et qui sont après transformées en purée, pas compote, puisque la purée, la différence entre purée et compote, la purée n'a pas de sucre ajouté, alors que la compote, vous trouvez du sucre dans le produit. Et actuellement, les gens, par goût, préfèrent les purées, car le sucre devient un peu banni par goût du consommateur.
On est bien dans une sensibilisation à la santé ici, à la ferme du Bernadet.
Tout à fait, c'est ce qui nous plaît, ça nous rapproche de nos valeurs, et on essaye d'être en adéquation avec nos valeurs dans le travail que nous faisons.
C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celle qui reste plantée à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je serais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mâtrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui,
toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Voilà, nous sommes toujours à Famille Roumat avec Jean-Pierre et Martine, la ferme de Bernardin.
La récolte, c'est le moment très important. Pour le chanvre, pour la cameline, ce sont des graines qui sont fragiles et qui ont la capacité à très vite fermenter.
Donc, c'est très petit en plus. Hein.
C'est des graines, la cameline est très très petite, le chanvre est gros comme une petite lentille. Mais ce sont des graines qui sont chargées d'humidité. Et pour avoir une huile de qualité, la première des choses, c'est les sécher le plus rapidement possible. Donc, 2 heures après la récolte, il est indispensable de les mettre dans des palox de séchage. Et là, vous avez une tour de ventilation avec un chauffage d'appoint si nécessaire. Et chaque palox est traversé par l'air chaud de manière à être refroidi immédiatement et séché éventuellement en fonction de l'hygrométrie.
Là, il faut combien de temps là, pour...
Là, pour sécher 3 tonnes, il me faut un à 2 jours.
D'accord. Donc en 2 jours, vos graines sont sèches. Et alors après, elles partent où ?
Alors, une fois qu'elles sont sèches, les graines sont triées. Donc là, je n'ai pas le gros trieur. Donc j'utilise un voisin qui a un appareil de triage. Il me trie les graines. Et une fois que les graines sont triées, elles sont mises dans des silos afin d'être conservées en silo avant le pressage.
On va peut-être passer à la suite alors.
Alors la suite. Donc, dans cette partie, il y a des silos pour garder toutes les graines en vue du pressage. Donc on a des silos, là on a le silo tournesol, là du silo colza, chanvre et cameline. Les graines sont conservées dans ce silo et sont acheminées le jour où on veut faire le pressage dans un transporteur pneumatique. Un deuxième triage pour finaliser, parce que la graine prend toujours un petit peu de poussière pendant le stockage, donc elle est renettoyée une deuxième fois avant d'être envoyée à la presse.
Alors on est devant la presse, alors c'est une presse comment elle marche cette presse ?
Alors c'est une presse double, donc il y a 2 vis comme toutes les presses, mais elle a une particularité, c'est de pouvoir extraire l'huile au début de la presse et non pas à la fin. En l'extrayant au début, on a l'huile qui n'a pas le temps de chauffer. Donc on arrive à extraire de l'huile à 10 degrés de plus que la température extérieure. Ce qui veut dire qu'on est largement en dessous des 30 ou 40 degrés d'extraction. Donc tous nos oméga-3 qui ne supportent pas la chaleur sont absolument intacts.
Donc on est ce qu'on appelle un pressage à froid. Là.
On est sur un pressage à froid parce qu'on ne préchauffe pas les graines avant. Et surtout un pressage à froid, parce que pendant l'opération de pressage, on ne monte pas en température. Mais c'est une presse spéciale.
Alors, ce qui veut dire que pour 1 kg de graines, on sort quoi ?
Allez, on va sortir 30%. 30% d'huile sur 1 kg de graines, en moyenne. Mais bon, ça dépend beaucoup des variétés et des types d'huile. Entre un tournesol et un chanvre, il y a beaucoup de différences. Quoi.
Qui c'est qui a le plus de rentabilité en huile ?
Le tournesol ou le colza. Voilà, le chanvre et la cameline ont un pourcentage d'huile beaucoup plus faible. On est dans les 28-30% d'huile uniquement. D'accord. C'est ce qui explique la différence de prix entre une huile de tournesol et une huile de chanvre.
Oui, parce que tournesol, bon, déjà, on sort 25 quintaux de tonnes 5 hectares, alors que là, on a des rendements très faibles.
On a des rendements, un champ, allez, va compter en moyenne une tonne hectare de graines.
Oui, donc après, on ne sort que 30% de...
300 litres d'huile.
300 litres d'huile. Pareil pour la...
Pareil pour la caméline. La caméline, on va être à 32% d'huile. Et un rendement hectare d'une tonne aussi.
La fleur, ça ressemble au colzame, à part qu'elle est blanche, non ? C'est ça ?
La fleur est non. C'est une petite fleur jaune, assez jaune. Insignifiante, et qui fleurit pas tout en même temps. Donc on n'a pas un champ jaune comme un champ de colza.
Parce que le colza fleurit maintenant, alors que là, on est...
La cameline va fleurir...
C'est une crucifère aussi.
C'est une crucifère aussi. Mmh. Et la cameline va fleurir plutôt vers le mois de juin.
D'accord. Mais semée maintenant, bientôt.
Là, elle est déjà semée. Ah. Elle est déjà semée, elle est en train de pousser. C'est une plante qui a une capacité à germer même dans des conditions froides. Et comme elle est, comme on n'utilise pas de désherbant, bien sûr, en agriculture biologique, il faut la semer de bonne heure de manière à éviter la concurrence de l'herbe.
D'accord. Vous utilisez des hercétrilles, tout ça ?
Hercétrilles, voilà, en particulier.
D'accord. Très bien, merci.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attelle, mon calmant, mon épars. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon compide, mon mercurochrome. T'es moins stupide que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble en parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon cousin quand je chope des invites. T'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant.
Alors, on a parlé de la troisième génération ici, et il se trouve que j'ai le fiston qui va se présenter. Il va nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il est revenu.
Bonjour à tous. Donc moi, c'est Nicolas Roumat. Du coup, je suis le fils de Jean-Pierre et Martine Roumat. Du coup, j'étais chef de projet logistique il y a quelques mois encore dans une entreprise qui fabriquait des bateaux à Bordeaux. Et j'ai quitté du coup mon travail pour revenir sur l'exploitation, pour créer ma société du coup, spécialisée autour du chanvre.
Alors, finalement, le Covid a une bonne chose parce que c'était le Covid qui a fait que... peut-être que c'était peut-être aussi dans les idées, hein, mais bon, ça peut être accéléré le mouvement.
Effectivement, c'était dans les tuyaux, j'avais déjà l'idée qui trottait en tête. Comme vous l'avez compris, mon père est passionné par le chanvre depuis pas mal de temps. J'ai été bercé par ses histoires depuis plusieurs années, et du coup, à force d'en parler, à force d'échanger avec lui autour du chanvre, on a pu identifier le potentiel qu'il y avait autour de cette plante. Et effectivement, le Covid aussi m'a permis, dans un sens, d'avoir une possibilité de quitter mon entreprise et de lancer la mienne autour de ce projet.
Alors, justement, on va parler du projet. Alors, c'est quoi ce projet ?
Alors, l'objectif, c'est de créer l'entreprise Le Chanvre de mon père, qui commercialisera des produits uniquement à base du chanvre que cultive mon père, et de garantir une traçabilité complète au client final, de A à Z. On sème, on récolte et on transforme nous-mêmes le chanvre. Et l'objectif sera de vendre des produits alimentaires et cosmétiques, donc pour avoir une gamme variée autour de ce chanvre local et biologique.
Alors quand on dit chanvre, on a parlé tout à l'heure, du chanvre on peut faire des vêtements, on peut faire du cosmétique... Parce que souvent, quand on dit chanvre, on a une autre connotation du chanvre.
Bien sûr. Le chanvre fait forcément le lien avec le cannabis, puisque c'est la même plante. C'est juste que le chanvre que nous cultivons est un chanvre industriel qui est justement sélectionné pour avoir un taux de THC, qui est la molécule psychotrope qui modifie l'état de conscience. Quand on parle de cannabis, on parle principalement de cette molécule-là. Quand on parle de chanvre, il y a d'autres molécules qui sont aussi tout aussi très intéressantes contenues dans les fleurs de chanvre.
Alors donc, il y a plusieurs types de molécules. Je sais que les plantes, il y a énormément de molécules. Et on est encore à la recherche. Il y a plein de choses encore à découvrir. Donc là, dans ce chanvre, il y a d'autres types de molécules.
Complètement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a entre une centaine, un peu plus d'une centaine de cannabinoïdes dans la fleur de chanvre. Donc, c'est des molécules qui sont contenues dans cette fleur et qu'on peut ensuite extraire. Et on a identifié certains de ces cannabinoïdes qui ont des effets sur le corps humain et sur notre système endocannabinoïde qui sont vraiment très, très importants.
Alors, ce qui veut dire qu'il y a certains produits qui sont légalisés et autorisés maintenant.
Oui, aujourd'hui, c'est tout à fait... légal et normal de trouver en vente des produits à base d'extrait de chanvre. Donc on entend beaucoup parler du CBD, c'est une de ces molécules qu'on parlait juste avant, des cannabinoïdes, c'est le cannabidiol CBD. Et c'est cette molécule-là qui est identifiée comme une des principales molécules qui a des effets relaxants, apaisants, des effets sur le sommeil, sur le système anti-inflammatoire, etc.
Il y a même, j'ai entendu certains qui disaient qu'ils faisaient du vin au chanvre, donc ça va loin.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de produits dérivés à base de chanvre et principalement autour du CBD, du cannabidiol.
Alors donc c'est là-dessus que tu travailles, tu t'es penché sur cette problématique-là, donc tu vas dériver, tu vas décliner plein de produits à partir de là, quoi.
Exactement, l'objectif c'est de partir du chanvre que cultive mon père, de récupérer l'huile qu'il presse lui-même et d'en faire des produits dérivés. Donc il y aura aussi la partie des produits à base d'huile de CBD, donc de cannabidiol, qu'on va faire extraire dans des laboratoires spécialisés.
Donc là on est vraiment au démarrage d'une autre activité là.
Complètement, c'est une autre type de valorisation qui n'avait pas été encore menée aujourd'hui dans la ferme de mes parents et que je suis en train de lancer.
D'accord. Alors ça veut dire qu'ici, au niveau chanvre, il y a combien d'hectares ?
Chaque année, il y a entre 4 et 8 hectares de chanvre sur la propriété qui sont cultivés donc à la fois pour la partie graines et prochainement du coup aussi pour la partie biomasse végétale de chanvre qui nous permettra ensuite d'extraire, de faire extraire par un laboratoire spécialisé ce fameux cannabidiol.
On n'a pas parlé de sol, mais je pense qu'ici, le fait d'être parti en bio, vous avez quand même beaucoup travaillé sur la partie biologie du sol. Et donc, le fait qu'il y ait une masse végétale, puisqu'on parle de biomasse, je pense que le fait, c'est relativement intéressant, le champ par rapport à ça.
Effectivement, c'est très intéressant justement d'être en agriculture biologique pour le chanvre, spécifiquement parce que cette plante a des capacités dépolluantes à capter des métaux lourds, des polluants dans le sol. Et le fait de cultiver le chanvre sur des terres qui sont biologiques depuis plus de 22 ans est une réelle valeur ajoutée par rapport à d'autres chanvres, tout type de chanvres qui ne sont pas forcément biologiques ou sur des terres propres depuis des dizaines d'années.
Donc, ce qui veut dire que le chanvre de mon père, c'est ça, on va avoir finalement tout un tas de produits à base de chanvre.
Exactement, on va avoir de l'huile de chanvre pure qui sera destinée à la partie cosmétique, de l'huile de chanvre alimentaire, des graines de chanvre, peut-être des graines décortiquées. Et également toute une gamme de produits avec de l'huile de chanvre et un extrait de CBD.
Bon, mais il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, là, il y a gelé, ton père, il a eu quelques soucis avec les pommes mais, et puis les kiwis, mais toi, bon, c'est bien parti, là.
Oui, ça se lance. Il y a beaucoup de... Le chemin est complexe puisqu'on est autour d'un produit, comme on disait il y a quelques minutes, qui est... Il y a beaucoup d'amalgames avec le cannabis, donc il y a quelques freins législatifs et de certification, mais on est en train de petit à petit y arriver et de lancer nos produits très prochainement. On espère d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, les lancer.
Avec un site internet peut-être ?
Exactement, donc du coup ça sera sur une boutique en ligne, on pourra retrouver nos produits et également dans des boutiques spécialisées ou des magasins biologiques et plutôt local.
Parce que ta mère nous parlait tout à l'heure qu'elle faisait le tour du département sur des magasins spécialisés. C'est quoi Biocoop, c'est quoi?
Oui, c'est ça. C'est des magasins spécialisés biologiques. Il y a du Biocoop. Il y a plusieurs types de magasins dans ce style-là.
Le site internet, il y a déjà un site internet déjà là, ou il est en construction?
Le site est en construction et il va arriver d'ici quelques semaines. Vous pouvez néanmoins retrouver du coup le chanvre de mon père sur Facebook, par exemple, pour vous abonner à notre page, pour pouvoir suivre le lancement de cette marque, nos actualités, nos prochains produits.
Un numéro de téléphone peut-être ?
Oui, bien sûr. Du coup, si vous avez des questions autour du chanvre, autour de ce projet-là, et vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un message. À mon numéro personnel au 07 68 81 19 74.
Je répète.
07 68 81 19 74.
Ou un site par mail.
Et par email à mon adresse personnelle roumat.nicolas@gmail.com. Et je peux vous l'appeler peut-être roumat, R-O-U-M-A-T. nicolas@gmail.com.
Bon, et là, on est sur un site qui est en construction. Et si on a des questions à poser, c'est très simple, soit par écrit, soit par oral. C'est très simple, il suffit de contacter Nicolas. Merci, Nicolas.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci.
Merci à tous.
Et voici Côté Jardin avec Patrick.
Aujourd'hui, je vais vous parler du kiwi. Hormis en Chine, dont il est originaire, il est resté inconnu jusqu'au XVIIIe siècle et n'a été cultivé dans le reste du monde qu'à partir du XXe siècle. Les premières plantations françaises datent des années 1980.
En fin de compte, le père Incarville envoie sans doute ses graines du fameux fruit à Bernard de Jussieu vers 1790. Mais qu'en faire? L'espèce en question, Actinidia sinensis, n'est pas décrite et ne l'est que 100 ans plus tard par le botaniste français Jules Planchon. Mais celui-ci travaille à partir de la collection rapportée en Angleterre en 1847 par Robert Fortune. Or, ces spécimens donnent des fleurs, mais pas encore des fruits. C'est M. Wilson, lors de sa première expédition pour le compte de la pépinière Veitch, presque 50 ans plus tard, qui le premier en décrit la saveur acidulée du fruit. Lui aussi envoie des graines en Angleterre, et elle germe. Mais cette fois encore, il faut avoir une plante décorative qu'on voit plus une plante décorative que fruitière. Lorsque le premier spécimen planté en 1920 dans les jardins du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, puis d'autres aux environs de Nice, donne des fruits, on les nomme souris végétales. Quel joli petit nom! Le fruit, il s'agit alors de celui de l'Actinidia sinensis, mesurant 3 à 5 cm de long et pesant 25 g, à une longue queue, une peau brunâtre et velue, tout comme une souris. Aussi, de là, un croquet s'écoule de nombreuses années. En 1904, des graines d'Actinidia deliciosa rapportées en Nouvelle-Zélande par l'enseignante Isabelle Fraser, de retour d'un voyage en Chine, ont tout un autre avenir. Les fruits, désormais baptisés groseilles de Chine, sont autrement plus engageantes. Plus tard, sous fond de guerre froide, ce nom de connotation communiste ne convient plus, surtout par l'exportation. Et dès 1952, vers l'Angleterre, puis vers les États-Unis. Pour éviter que les fruits ne soient taxés aux douanes, on change donc de nom pour leur donner celui de kiwi, en hommage à l'oiseau emblématique de Nouvelle-Zélande. Quel succès! Aujourd'hui, plus de 2 millions de tonnes de kiwis sont produits chaque année dans le monde, notamment en Chine, en Italie, en Nouvelle-Zélande, la France occupant le 6e rang mondial. Autant dire que manger de la vitamine C relève aujourd'hui du vice. L'Actinidia est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'elle possède un pied mâle et un pied femelle. Et aussi, il est recommandé d'avoir un pied mâle pour deux pieds femelles. Mais il existe depuis les années 1990 des kiwis auto-fertiles, aux fruits un peu plus petits et moins nombreux. Les kiwis de Sibérie, issus de Actinidia arguta, auto-fertiles, mais très rustiques, sont particulièrement recommandés dans la région froide. Ils donnent des fruits lisses dont on mange la peau. C'était l'histoire du kiwi Actinidia chinensis.
C'était Côté Jardin avec Patrick.
Voilà, l'émission s'achève. Nous étions sur la ferme de Bernardin, orientée en agriculture biologique depuis plus de 20 ans à Foyer, près de Tonnes. La famille Roumat, Jean-Pierre et Martine nous ont présenté finalement la production de pommes kiwi, mais surtout des graines de tournesol, colza et principalement du chanvre et cameline pour la production d'huile à usage alimentaire et cosmétique bio. Et puis la passion du chanvre a été transmise à Nicolas, avec le nouveau débouché, base de chanvre, base de CBD, le chanvre de mon père. Et côté jardin, c'était le kiwi. Aussi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.